Joseph Conrad, un anarchiste. Cette année-là, je passais les deux plus beaux mois de la saison sèche sur l'un des domaines, sur le principal domaine, devrais-je dire, d'une célèbre société de fabrication d'extraits de viande. BOS, BOSS. Vous avez lu les trois lettres magiques sur les pages de réclame des journaux et des revues, à la devanture des marchands de comestibles et dans les calendriers de l'année à venir que la poste vous apporte au mois de novembre. Vous avez lu ces brochures, rédigées en plusieurs langues, en un style d'un pâle enthousiasme, et dont les statistiques de massacres et de sang ont de quoi faire pâlir un Turc. La partie artistique, destinée à illustrer cette littérature, représente en couleur brutale et luisante un énorme taureau noir qui piétine furieusement un serpent jaune convulsé d'agonie dans une herbe vert émeraude. Le tout se détache sur un ciel de cobalt. C'est atroce et allégorique. Le serpent représente la maladie, la faiblesse, peut-être simplement la faim, cette maladie chronique de la plus grande partie de l'humanité. Naturellement, tout le monde connaît la Boss Co. Limited, avec ses produits sans rivaux, Vini Boss, Jelly Boss, et la suprême, l'inégalable perfection, le Tri-Boss, dont les vertus nutritives, non contentes de se présenter sous un haut degré de concentration, se targue d'une digestion à demi achevée déjà. Tel est apparemment l'amour que la compagnie Limited porte à ses contemporains, amour pareil à celui des pères et mères pingouins pour leurs rejetons affamés. Évidemment, il faut bien employer de façon convenable les capitaux d'un pays, et je n'ai rien à dire contre la compagnie. Mais étant moi-même animé de sentiments affectifs pour mes frères en humanité, je suis attristé par les excès de la réclame moderne. Malgré tout ce qu'elle peut attester d'énergie, d'ingéniosité, de trouvailles et d'impudence chez certains individus, elle trahit surtout, à mon sens, la triste prédominance de cette forme de dégradation mentale qui s'appelle crédulité. J'ai dû, en maintes régions du monde civilisées ou non, avaler du BOS avec plus ou moins de profit pour moi-même, mais toujours sans grand plaisir. Dissous dans de l'eau chaude, et abondamment poivré pour en faire ressortir le goût, cet extrait n'est pas absolument déplaisant. Mais je n'ai jamais pu avaler sa réclame. Peut-être n'a-t-elle pas une audace suffisante. Autant que je m'en souvienne, les annonces ne promettent pas une jeunesse éternelle à ceux qui font usage du BOS, et n'ont pas encore attribué à leur estimable produit le pouvoir de ressusciter les morts. Pourquoi cette réserve austère, je me le demande. Je ne crois d'ailleurs pas que, même à ce prix, je me laisse séduire. De quelque forme de la dégradation humaine que je souffre, étant humain moi-même, ce n'est pas de la forme populaire. Je ne suis pas gobeur. J'ai voulu affirmer nettement cette vérité au début du récit qui va suivre. J'en ai, dans la mesure du possible, contrôlé les données. J'ai parcouru des collections de journaux français, et j'ai causé, lorsque le hasard de mes voyages m'amena à Cayenne, avec l'officier qui commande la garde militaire de l'île royale. Je crois l'histoire vraie, au fond. Ce n'est pas une de ces aventures qu'un homme puisse inventer sur son propre compte, car elle n'est ni grandiose ni glorieuse, ni assez drôle non plus pour flatter une vanité pervertie. Elle a trait au mécanicien d'un petit vapeur appartenant à la compagnie BOS Limited dans son domaine du Marañón. Ce gigantesque parc à bestiaux est une île grande comme une petite province, située dans l'estuaire d'un grand fleuve de l'Amérique du Sud. Elle est déserte et sans beauté, mais l'herbe qui pousse sur ses plaines basses paraît douée de qualités nutritives exceptionnelles et d'un parfum particulier. Elle retentit des beuglements de troupeaux innombrables, et ce bruit sourd et déchirant monte sous le vaste ciel comme une protestation formidable de prisonniers condamnés à mort. Sur la terre ferme, par-delà 20 000 d'eau boueuse et décolorée, dort une ville que nous appellerons, si vous voulez, Horta. Le trait le plus intéressant de cette île, qui fait l'effet d'une sorte de pénitencier pour animaux, c'est qu'elle abrite exclusivement un papillon parfaitement rare et somptueux. L'espèce en est même plus rare que belle, ce qui n'est pas peu dire. J'ai déjà fait allusion à mes voyages. Je voyageais à cette époque, mais strictement pour moi, et avec une modération inconnue à ce temps d'excursion autour du monde. Je voyageais même avec un but. En fait, je suis un terrible tueur de papillons. Ha ha ha! C'est en ces termes et sur ce ton que M. Harry G., régisseur du domaine, parlait de mes travaux. Il semblait tenir mes recherches pour la plus parfaite absurdité du monde, alors qu'à ses yeux, la compagnie BOS Limited représentait au contraire la suprême pensée du XIXe siècle. Je crois qu'il couchait en bottes et en éperons. Il passait ses journées en selle et volait par la plaine, suivi d'une escorte de cavaliers à demi sauvages qu'il appelait Don Enrique, et il ne se faisait pas une idée bien nette de la compagnie BOS Limited qui payait leurs gages. C'était un excellent directeur, bien que je ne m'explique pas pourquoi il s'obstinait, quand nous nous retrouvions au repas, à me donner de grandes tapes dans le dos, en me demandant avec des accents de bruyante dérision « Comment marche votre sacrée chasse aujourd'hui ? Les papillons vont fort ? Ha ha !» Surtout qu'il me comptait au prix de 2 $ par jour l'hospitalité de la BOS Co. Limited, au capital de 1 500 000 livres sterling, entièrement versé, dont le bilan pour cette année-là doit sans doute faire état de ces sommes. Je ne crois pas, en toute justice pour la compagnie, pouvoir vous demander moins, m'avait-il expliqué avec une gravité extrême, en débattant avec moi les conditions de mon séjour dans l'île. Ces bouffonneries auraient été assez inoffensives s'il n'y avait toujours quelque chose de détestable dans une intimité qui ne comporte aucun sentiment amical. Et puis, ces plaisanteries n'étaient pas des plus amusantes. Elles consistaient en une répétition lassante et soulignée d'éclats de rire, des épithètes descriptives appliquées à ses victimes. « Terrible tueur de papillons ! Ha 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 !» Voilà un échantillon de cet esprit que le directeur prisait si fort. C'est dans une disposition d'humeur aussi exquise qu'il attira mon attention sur le mécanicien du vapeur un jour que nous arpentions le sentier qui longe la baie. La tête et les épaules de l'homme émergeaient au-dessus du pont où gisaient divers outils et quelques pièces de mécanique. Il faisait une réparation aux machines. Au bruit de nos pas, il leva avec inquiétude un visage sale, au menton pointu et à la petite moustache blonde. Ce que je distinguais de ses traits délicats sous les ébrures noires m'apparut livide et épuisé dans l'ombre verdâtre de l'arbre énorme qui étendait son feuillage au-dessus du bateau amarré à la berge. À ma grande surprise, Harry G. interpella le mécanicien sous le nom de Crocodile, avec ce ton mi-blagueur, mi-brutal, qui traduit chez les gens de son acabit une parfaite satisfaction de soi. « Comment va l'ouvrage, Crocodile ?» J'aurais dû vous dire déjà que l'aimable Harry G. avait appris un peu de français, dans une colonie quelconque, et qu'il le prononçait avec une précision déplaisante et forcée, comme une langue guindée et morte. L'homme du bateau lui répondit vivement, avec une voix agréable. Ses yeux avaient une douceur liquide, et ses dents luisaient d'un éclat extraordinaire entre ses lèvres minces et flétries. Le directeur se tourna vers moi pour m'expliquer d'un ton jovial et bruyant « Je l'appelle Crocodile parce qu'il vit à moitié dans l'eau, à moitié sur terre. Un amphibie, quoi. » Il n'y a pas d'autres amphibies sur l'île que des crocodiles. Alors il faut qu'il appartienne à cette espèce-là, hein? En réalité, ce n'est rien moins qu'un citoyen anarchiste de Barcelone. « Un citoyen anarchiste de Barcelone » répétai-je stupidement. Les yeux baissés sur l'homme, qui s'était remis à l'ouvrage et se penchait vers la machine en nous tournant le dos. Je l'entendis protester à voix très intelligible, sans changer de position. « Je ne sais même pas l'espagnol. »« Hein, comment ? Vous osez nier que vous venez de là-bas ?» se récria brutalement le directeur modèle. Sur quoi l'homme, se redressant, laissa choir une clé anglaise dont il venait de se servir et nous regarda. Il tremblait de tous ses membres. « Je ne nie rien, rien, rien du tout !» fit-il nerveusement. Et, ramassant son outil, il se remit à son travail, sans prêter plus d'attention à notre présence. Après l'avoir regardé 1 ou 2 minutes, nous nous éloignâmes. « Est-ce vraiment un anarchiste ? » demandai-je, une fois hors de portée de l'oreille. « Je m'en fiche comme de l'an 40, » répondit le jovial fonctionnaire de la BOS. Je lui ai donné ce nom-là, parce qu'il me convenait de le désigner ainsi. C'est l'intérêt de la compagnie. De la compagnie, m'écriai-je, en m'arrêtant court. Ah ah, triompha-t-il, en levant son museau glabre et en écartant ses grandes jambes maigres. Ça vous épate? Je me crois tenu à faire de mon mieux pour la compagnie, qui a d'énormes frais. Tenez, notre représentant de Horta me dit qu'on dépense 50 000 livres par an, rien qu'en réclame, de par le monde. Il ne faut pas lésiner pour le tape à l'œil. Eh bien, écoutez, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de vedette de service. J'en ai demandé une tout de suite et n'ai pas cessé de réclamer par chaque courrier jusqu'à ce qu'on m'en ait donné une. Seulement, le bonhomme qu'on avait envoyé avec nous a lâchés au bout de 2 mois en laissant son bateau amarré au ponton de Horta. Il avait trouvé un poste plus avantageux dans une scierie du fleuve, l'animal. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été la même histoire. Par ici, le moindre vagabond écossais ou yankee, qui s'intitule mécanicien, vous demande 18 livres par mois, et à peine avez-vous eu le temps de vous retourner qu'il décampe, après avoir démoli quelque chose, en général. Je vous donne ma parole que quelques-uns des gens-foutres que j'ai eus comme mécaniciens ne distinguaient pas la chaudière de la cheminée. Quant à celui-là, il connaît son affaire, et je n'ai pas envie de le laisser filer, comprenez-vous? Il me donna un petit coup sur la poitrine pour accentuer l'effet de ses paroles. Sans m'arrêter à cette familiarité, je lui demandai ce que venait faire là-dedans la profession d'anarchiste de son mécanicien. « Tiens, ricana le directeur, si vous voyez un beau jour un va-nu-pied en loques se cacher dans les fourrés du côté de la mer, et que vous aperceviez du même coup, à moins 1 mille de la côte, une petite goélette pleine de nègres filée à toute voile, vous ne croiriez pas le gars tombé du ciel, peut-être, et il ne pourrait venir que du ciel ou de Cayenne. Moi, je ne perds pas le nord. Dès que j'eus compris de quoi il retournait, je me dis, un forçat évadé. J'en étais aussi certain que de vous voir là, devant moi, en ce moment. Je poussai mon cheval droit sur lui. Perché sur un monticule de sable, il resta un moment immobile, il criait, « Monsieur, monsieur, arrêtez !» Puis, au dernier moment, il tourna le dos et prit les jambes à son cou. Je me dis, « Toi, je te materai avant de te laisser en paix. » Et sans un mot, je continuai la poursuite et le pourchassai à droite et à gauche. Je finis par l'amener à la côte et à l'acculer sur une petite langue de terre. Les talons dans l'eau, il n'avait derrière lui que le ciel et la mer, et devant, à moins d'un mètre, mon cheval qui s'ébrouait et piétinait le sable. Il croisa les bras sur sa poitrine et leva le menton avec un geste de désespoir. Je n'allais pas me laisser attendrir par ses façons de mendigo. « Vous êtes un forçat échappé, lui dis-je. » En entendant parler français, son menton tomba et il changea de figure. « Je ne nie rien, répondit-il, encore tout haletant, car je l'avais fait courir plutôt vite devant mon cheval. Je lui demandai ce qu'il faisait là. Il avait retrouvé le souffle et m'expliqua qu'il voulait gagner une ferme du voisinage, dont probablement les gens de la goélette lui avaient parlé. Je me mis à rire, ce qui l'inquiéta. L'aurait-on trompé? N'y avait-il pas de ferme où l'on pût arriver? Je riais de plus en plus fort. Il était à pied, et le premier troupeau qu'il aurait rencontré l'aurait réduit en charpie à coups de sabot. Un homme surpris à pied dans les pâturages n'a pas l'ombre d'une chance de se tirer d'affaire. « Vous devez certainement la vie à notre rencontre, lui dis-je. » Et il répondit que c'était bien possible, bien qu'il eût plutôt cru d'abord que je voulais l'écraser sous les sabots de mon cheval. Je lui affirmai que rien n'aurait été plus facile si j'en avais eu envie. Sur quoi il y eut un trou dans l'entretien. Je ne pouvais imaginer ce que j'allais faire du forçat, à moins de le pousser à l'eau. Je m'avisai de lui demander ce qu'il avait fait déporter. Il pencha la tête. « Voyons, insistai-je, cambriolage, assassinat, viol ou quoi ?» Je voulais savoir ce qu'il allait trouver à raconter, tout en attendant un mensonge. Mais il se contenta de dire « Imaginez ce qu'il vous plaira, je ne nie rien. Ça ne sert à rien de nier. » Je le regardai fixement, et une idée me vint. « Il y a des anarchistes là-bas, dis-je. Peut-être que vous en êtes un. »« Je ne nie rien du tout, monsieur, » répéta-t-il. Cette réponse me fit douter qu'il fût réellement anarchiste. Je crois que ces sacrés toqués-là sont plutôt fiers d'eux-mêmes. S'il avait été un anarchiste, il l'aurait certainement proclamé tout de suite. « Qu'est-ce que vous étiez avant d'être forçat ?»« Ouvrier, » répondit-il, et bon ouvrier encore. Je me dis qu'ils devaient bien être anarchistes, en somme. C'est la classe d'où ils sortent presque tous, n'est-ce pas? J'ai horreur de ces lâches brutes-là, de ces lanceurs de bombes. J'étais presque décidé à tourner bride et à laisser le bonhomme se noyer ou crever de faim à son gré. Quant à traverser l'île pour venir m'embêter, les bêtes sauraient bien l'en empêcher. Je ne sais ce qui me poussa à lui demander « Quelle espèce d'ouvrier ?» Je ne me souciais pas le moins du monde de sa réponse. Mais quand je l'entendis répliquer « Mécanicien, monsieur », je faillis tomber de selle de saisissement. La vedette restait désemparée et inutilisable dans la baie depuis 3 semaines. Mon devoir envers la compagnie était bien clair. Il avait remarqué mon sursaut, et nous restâmes une grande minute à nous regarder dans les yeux comme des hommes ensorcelés. « Montez en croupe derrière moi, commandai-je. Vous arrangerez ma vedette à vapeur. » C'est en ces termes que le digne régisseur des domaines du Marañón me raconta l'arrivée du prétendu anarchiste. Il voulait le tenir, au nom des intérêts de la compagnie, et le titre qu'il lui avait donné devait empêcher l'homme de trouver jamais une place à Horta. Les vaqueros du domaine répandaient l'histoire dans toute la ville quand ils partaient en congé. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un anarchiste, pas plus qu'ils ne connaissaient Barcelone. Ils l'appelaient « Anarquista de Barcelona », comme ils eussent dit son nom et son prénom. Quant aux gens de la ville, ils avaient lu dans les journaux les exploits des anarchistes européens et se montraient fort émus. L'épithète colorée « de Barcelona » faisait glousser M. Harry G. de satisfaction. C'est une espèce particulièrement dangereuse, hein? Tous les propriétaires de Syrie ont une frousse d'autant plus grande d'un homme pareil, comprenez-vous? Exultait-il avec candeur. Je le tiens mieux avec ce nom-là que si je le gardais enchaîné par la jambe au pont de ma vedette. Remarquez bien d'ailleurs, ajoutait-il après un instant de silence, qu'il ne proteste pas. Je ne lui fais aucun tort. C'est un forçat d'ailleurs à tout prendre. Je suppose cependant que vous lui donnez un salaire, demandai-je. Un salaire? Qu'a-t-il besoin d'argent ici? Il trouve à manger chez moi et des vêtements au magasin. Bien sûr, je lui ferai un cadeau à la fin de l'année. Vous ne croyez pas que je vais employer un forçat et lui donner les mêmes gages qu'à un honnête homme? Je regarde avant tout aux intérêts de la compagnie. Je reconnus qu'à une compagnie qui dépensait 50 000 livres par an en annonces, la plus stricte économie s'imposait de façon péremptoire. Le régisseur de l'Estancia du Marañón poussa un grognement approbateur. Et puis, écoutez, reprit-il, si j'étais certain que ce fût un anarchiste et qu'il eût le toupet de me réclamer de l'argent, je lui enverrais le bout de ma botte quelque part. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je veux bien admettre qu'il se soit contenté de planter son couteau dans un dos quelconque, avec circonstances atténuantes, à la française, vous savez. Ces histoires sanguinaires et subversives, cette façon de vouloir renverser toutes les lois et l'ordre du monde, ça me fait bouillir le sang. C'est couper l'herbe sous le pied à tous les travailleurs honnêtes et respectables. Je vous dis qu'il faut protéger la conscience chez les gens qui en possèdent, comme vous et moi, sans quoi la première fripouille venue pourrait à tous égards me valoir. Jugez un peu. Quelle absurdité! Il me regardait fixement. Je fis un signe de tête et murmurai qu'il y avait certainement beaucoup de vérités subtiles dans cette façon de voir. La première vérité que l'on pouvait démêler dans les idées de Paul le mécanicien, c'est qu'un détail futile suffit à causer la ruine d'un malheureux. « Il n'en faut pas beaucoup pour perdre un homme », me dit-il un soir d'un ton pensif. Je rapporte cette réflexion en français, car le pauvre garçon venait de Paris et pas du tout de Barcelone. Au Marañón, il vivait à l'écart de la ferme, dans un petit appentis à toit métallique et à parois de paille qu'il appelait « mon atelier ». On y avait placé un établi, plusieurs couvertures de cheval et une selle, non qu'il eût jamais l'occasion de monter à cheval, mais parce que tous les employés de l'établissement, vaqueros et bouviers, ne connaissaient pas d'autre literie. Et comme un fils des plaines, il dormait sur ce harnais de cavalier, couché au milieu de ses outils, sur une litière de ferraille rouillée, avec une forge portative pour chevet, et l'établi pour supporter sa moustiquaire crasseuse. De temps à autre, je lui apportais quelques bouts de chandelle arrachés à la maigre provision de la maison directoriale. Il m'était très reconnaissant de ce cadeau. Il n'aimait pas rester éveillé dans l'ombre. « Le sommeil me fuit, » déplorait-il, avec l'habituel accent de stoïcisme résigné qui le rendait sympathique et touchant. Je lui avais fait comprendre que je n'attachais pas une importance excessive à sa qualité d'ancien forçat. C'est ce qui l'amena un soir à me parler de lui-même. Comme un des bouts de bougie placé sur l'établi menaçait de s'éteindre, il en alluma vivement un autre. Il avait fait son service militaire dans une garnison de province et était rentré à Paris pour exercer son métier. C'était un travail bien payé. Il me conta avec orgueil qu'il était arrivé en peu de temps à se faire 10 francs par jour. Il songeait à s'établir bientôt à son compte et à se marier. Il poussa un profond soupir et se tut un instant. Puis, avec un renouveau de stoïcisme, « Il faut croire que je ne me connaissais pas assez. » Le jour de ses 25 ans, deux camarades de l'atelier où il travaillait lui offrirent à dîner. Il fut profondément touché de cette attention. « J'étais un homme sérieux, m'expliqua-t-il, mais j'aimais autant la société qu'un autre. » La fête projetée eut lieu dans un petit café du boulevard de la Chapelle. On but du vin cacheté, du vin excellent. Tout était excellent, et le monde, selon son expression, semblait un bon endroit pour vivre. Il avait un bel avenir, un peu d'argent de côté, et l'affection de deux excellents amis. Il offrit de payer toutes les consommations après le dîner, ce qui était seulement convenable de sa part. Ils burent du vin, puis des liqueurs, du cognac, de la bière, des liqueurs encore, et encore du cognac. Deux étrangers assis à la table voisine le regardaient avec tant de cordialité qu'il les invita à se joindre à leur groupe. De sa vie, il n'avait tant bu. Il se trouvait rempli d'un enthousiasme sans bornes et si délicieux que, dès qu'il le sentait mollir, il se dépêchait de commander de nouvelles consommations. « Il me semblait, disait-il de son ton paisible, en regardant à ses pieds dans le triste local plein d'ombre, il me semblait que j'allais décrocher un prodigieux bonheur. Il suffirait d'un dernier verre pour y atteindre. Les autres lui tenaient bravement tête, verre pour verre. » Puis il se passa quelque chose d'extraordinaire. Sur un mot des étrangers, son exaltation tomba. Des idées noires se pressaient dans sa tête. Le monde, en dehors du café, lui faisait l'effet d'un lieu sinistre et méchant, où une multitude de pauvres diables devaient travailler en esclaves pour permettre à quelques individus de se pavaner dans des équipages et de mener dans des palais une vie d'orgie. Il eut honte de son bonheur. La grande pitié de l'humanité douloureuse lui torturait le cœur. Il tenta, d'une voix étranglée par l'affliction, d'exprimer ses sentiments. Il pleurait et jurait tour à tour. Les deux nouveaux venus se hâtèrent d'applaudir à son indignation humaine. Oui, la somme d'injustice du monde était scandaleuse. Il n'y avait qu'une façon de traiter une société pourrie. Il fallait démolir toute la sacrée boutique, faire sauter un monde d'iniquité. Leurs têtes se rapprochaient par-dessus la table. Ils lui soufflaient à l'oreille des paroles enflammées, sans s'attendre sans doute à l'effet de leur éloquence. Il était extrêmement ivre, fou d'ivresse. Tout à coup, avec un cri de rage, il bondit sur la table. Renversant à coups de pied verre et bouteille, il clama « Vive l'anarchie, mort aux capitalistes !» Il poussa ce cri à diverses reprises. Autour de lui, il y avait un vacarme de verres brisés, de chaises lancées en l'air, de gens qui se prenaient à la gorge. La police fit irruption. Il cogna, mordit, griffa, lutta, et sentit tout à coup quelque chose craquer dans sa tête. Il revint à lui dans une cellule, emprisonné sous l'inculpation de voies de fait, de cris séditieux et de propagande anarchiste. Il fixait sur moi le regard de ses yeux liquides et brillants, qui semblait très grand dans la pénombre. « Mauvaise affaire, » fit-il lentement, « mais j'aurais peut-être encore pu m'en tirer. » J'en doute. En tout cas, ses chances furent compromises par un jeune avocat socialiste qui s'offrit bénévolement à le défendre. Il eut beau affirmer qu'il n'était pas anarchiste, qu'il était un brave ouvrier paisible, uniquement soucieux de faire ses 10 heures de travail, on le présenta au tribunal comme une victime de la société. On interpréta ses clameurs d'ivrogne comme l'expression d'une souffrance infinie. Le jeune avocat avait son chemin à faire et cherchait comme marchepied une affaire de ce genre. Sa plaidoirie fut fort admirée. Le pauvre garçon se tut, avala sa salive et conclut j'ai été condamné au maximum pour un premier délit. Je fis entendre un murmure apitoyé. Il pencha la tête et croisa les bras. Quand on me relâcha, reprit-il doucement, je retournai naturellement à mon ancien atelier. Mon patron avait toujours eu pour moi une estime particulière. Du plus loin qu'il me vit, il verdit de terreur et me montra la porte d'une main tremblante. Tandis qu'il restait dans la rue, inquiet et déconfit, il fut abordé par un homme d'un certain âge qui se présenta comme mécanicien ajusteur. « Je te connais, dit-il, j'ai assisté à ton procès. Tu es un bon camarade et tu as des idées saines. Le diable, c'est que tu ne trouveras plus de travail nulle part maintenant. Ces bourgeois vont conspirer pour te faire crever de faim. C'est comme ça qu'ils sont. Pas de pitié à attendre des riches. » Il se sentit réconforté par ces paroles amicales. C'était évidemment l'un de ces êtres qui ont besoin d'appui et de sympathie. L'idée de ne pas pouvoir trouver d'ouvrage l'avait complètement démoralisé. Si son patron, qui le connaissait pour un ouvrier paisible, rangé et habile, ne voulait plus entendre parler de lui, personne d'autre ne l'emploierait, sûrement. C'était bien clair. La police, qui le tenait à l'œil, s'empresserait de prévenir tous les patrons qui pourraient être tentés de lui donner de l'ouvrage. Désemparé tout à coup, inquiet et vide de désir, il suivit l'homme dans un estaminet du coin, où il trouva d'autres bons compagnons. On lui affirma qu'on ne le laisserait pas jeûner, avec ou sans travail. On but à la ronde, à la ruine de tous les exploiteurs du travail et à la destruction de la société. Il se mordait la lèvre. « Voilà comment je suis devenu compagnon, monsieur, » fit-il, en passant sur son front une main tremblante. « Tout de même, il faut qu'il y ait quelque chose de mauvais dans un monde où un type peut être perdu pour un verre de trop. »